8h13 sur Europe 1, l'heure de l'interview actu d'Europe 1 Matin Weekend. Et en cette veille de Noël, on évoque la vie de Jésus. Et la Medjahed, vous recevez l'historien, écrivain et politologue Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Merci d'être en direct ce matin depuis le studio d'Europe 1. Après votre best-seller sur la vie de Jésus en 2011, vous venez de publier un récit graphique pour raconter Jésus aux éditions Fayard Graphique. Pourquoi avoir choisi de laisser un peu plus de place à l'image ?
Alors, j'avais écrit en effet en 2011 un ouvrage important de 660 pages, donc avec des annexes, des notes, une bibliographie conséquente. Et les éditions Fayard, donc, qui ont édité ce premier livre, m'ont proposé de le réduire, de le résumer, de l'actualiser, parce qu'il y a eu des découvertes archéologiques aussi intéressantes et importantes, et puis de l'illustrer sous forme d'un récit graphique. Alors, ce récit graphique, ce ne sont pas des BD, bien sûr, mais c'est des illustrations assez nombreuses, abondantes, qui accompagnent le texte. Un texte donc résumé, qui a l'objectif étant de s'adresser à un public un peu plus large que celui qui avait lu mon premier livre, lequel d'ailleurs avait connu un grand succès.
Alors, l'ouvrage a l'originalité d'illustrer la vie de Jésus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais il y a bien sûr un dessinateur derrière tout ça. Hein.
Oui, alors c'est Vincent Ravalec qui conduit l'équipe chargée de construire ses dessins. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est un outil qu'on a utilisé. Moi, j'ai moi-même contrôlé les choses. On ne se laisse pas faire par une machine qui sort, qui vous impose quelque chose. Il y a des dessins qui n'allaient pas, qui n'étaient pas très beaux. On les a récusés. Ouais. Et d'autres, au contraire, on a dit, voilà, c'est très bien, il faut creuser. Il y avait des montagnes beaucoup trop hautes. En Palestine, il n'y a pas de montagnes enneigées, donc on a supprimé tout cela. Voyez, mais on utilise l'intelligence artificielle comme un outil.
Alors, au-delà des dessins, le récit graphique retraçant la vie de Jésus est aussi plus accessible. Vous voulez toucher un plus large public, vous l'évoquiez à l'instant.
Oui, alors, ce livre, c'est un livre, une quête du Jésus de l'histoire. Ce n'est pas une quête du Jésus de la foi. Mais évidemment, les deux ne s'opposent pas. Ce Jésus de l'histoire, il pose aux chercheurs, aux historiens, un mystère. Parce que ce rabbi, ce ouvrier du bois, Tecton, de Nazareth, qui vient, qui attire autour de lui des foules, qui enseigne, mais qui enseigne avec une autorité exceptionnelle, extraordinaire, qui dit « Moïse vous a dit de faire ceci ». Moi, je vous dis de faire cela. Mais qui, moi ? Immédiatement, le mystère naît par sa présence. Il appelle son père Abba, c'est-à-dire papa, papa chéri en araméen, alors que les Juifs n'osent pas prononcer le nom de Dieu. Il est maître du sabbat. Il se dit, lors de la fête d'Hanouka, dont on a parlé tout récemment, il se dit « la lumière du monde, je suis la lumière du monde ». Quel est cet homme ? Et la pire des choses, évidemment, pour les pharisiens, notamment, il pardonne les péchés. Donc, il se met à la place de Dieu. Alors là, donc, l'historien est obligé de s'arrêter devant le mystère, s'arrêter devant les miracles, disant bien sûr, les miracles ont des conséquences, mais on ne peut pas, évidemment, les admettre en tant qu'historien. À chacun de se faire une opinion. Et bien entendu, il s'arrête aussi devant le tombeau vide, les linges affaissés, sur le lendemain de la mort de Jésus.
Alors, on le rappelle, la fête de Noël célèbre la nativité du Christ. L'existence historique de Jésus est-elle avérée ? Je suis obligé de vous poser la question.
C'est une évidence absolue. Il y a quelques mythistes qui nient ce fait, mais tous les textes anciens, extérieurs au christianisme, l'attestent. Et puis les évangiles eux-mêmes, qui sont aussi des récits d'histoire, qu'il s'agit de classer, d'ordonner, sans doute, le plus historique étant celui de Jean, le disciple bien-aimé, qui a été un témoin et qui était au pied de la croix avec Marie.
À partir de quand avons-nous fêté Noël ? Comment cette fête a évolué à travers le temps ?
Cette fête, il y a deux grandes fêtes dans le christianisme. Il y a Noël, qui est la fête de l'incarnation, la fête de la naissance de Jésus. Et puis, la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection. Alors Noël, c'est le dies natalis, ça a été instauré par le pape Libère seulement en 354, pour le faire coïncider avec le solstice d'hiver. Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 1, d'ailleurs. Même l'an 1, on n'est pas sûr, il est très probable que Jésus soit né avant Jésus-Christ, en quelque sorte, vers l'an 7. On a des éléments qui nous permettent de le penser. Voilà, avant, on fêtait l'épiphanie, la venue des mages ou le baptême de Jésus. Donc, c'est une fête qui s'est répandue à partir du 5e siècle en Europe, et puis qui s'est développée avec les échanges de cadeaux au 16e, 17e, l'apparition de la crèche aussi, en 1223, avec saint François d'Assise. Et les crèches, d'abord, étaient des crèches vivantes, puis on en a installé avec des figurines dans les églises, au 16e surtout. Et quand il y a eu des persécutions religieuses, les crèches sont venues ont été installées dans les maisons particulières.
Alors, est-ce que vous ressentez que le besoin de se rapprocher du sacré est plus fort chez les Français en cette période un peu difficile ?
Ah oui, c'est sûr, il y a une quête du sacré, mais en même temps, il y a un tel matérialisme, une telle absence de transcendance, de façon générale, qu'on en a oublié beaucoup de traditions, et il y a un effondrement de la culture chrétienne. Donc, cette quête, elle a besoin d'être revitalisée pour éviter qu'elle parte dans toutes les directions.
La messe de minuit célèbre donc la naissance de l'enfant Jésus, messe traditionnelle des catholiques et qui aura lieu ce soir. Comment se déroule en général la veillée de Noël ?
La veillée de Noël, c'est ce qui précède la messe proprement dite. Elle est accompagnée de lectures, de chants, de lumignons qu'on allume, et puis de l'installation surtout de l'enfant Jésus dans la crèche. Oui. Alors tout ça, ce sont des traditions postérieures, bien entendu, mais l'objectif, c'est de rappeler l'incarnation de Dieu sur terre. Jésus venu, vrai homme et vrai Dieu, qui est le fondement même du christianisme.
Alors, certaines populations dans le monde ne pourront pas fêter Noël. Arménie, Irak, Syrie, Gaza. En 2023, la situation des chrétiens d'Orient s'est aggravée partout. Une souffrance dont on parle très peu. Existe-t-il une forme d'indifférence, selon vous, sur le sort de ces populations et comment l'expliquer ?
Ah oui, la religion chrétienne, sous différentes confessions, c'est la religion la plus persécutée au monde.
Ah oui.
On ne le souligne pas suffisamment. 76 pays sont concernés. 360 millions de chrétiens dans le monde vivent des persécutions. 1 sur 7, donc c'est énorme. 5600 personnes tuées, chrétiens tués pour leur foi. 2100 églises, c'est les chiffres de l'année dernière, 2100 églises attaquées, détruites, brûlées, incendiées. 4500 chrétiens détenus pour leur foi, c'est une persécution terrible. Pourquoi ce silence ? Il y a beaucoup de raisons. Les chrétiens ne cherchent pas à attirer sur leur sort, ne jouent pas les victimes. Il y a aussi une certaine indifférence à l'égard du christianisme en Occident, voire une hostilité sourde de certains médias. Donc tout cela fait qu'il y a un silence sur un scandale immense, puisque la liberté religieuse, c'est un élément fondamental des droits de l'homme.
Merci, merci de le rappeler Jean-Christian, petit-fils. Merci d'avoir été en direct dans les studios d'Europe 1. Joyeux Noël.
Merci à vous aussi.
Et je rappelle que vous venez de publier Jésus aux éditions Fayard Graphique après votre best-seller sur la vie de Jésus en 2011.